Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Yo-Yo Mag pour son ouvrage La Saga Mag, paru aux éditions Robert Laffont. Voilà, il s'agit évidemment d'un très très beau livre qui retrace le portrait d'Aimé Mag et à travers le prisme de souvenirs, de vos souvenirs à vous. Donc c'est une dimension assez subjective de votre histoire et de l'histoire de cette famille.
C'est ça, c'est absolument ça. C'est mon grand-père Aimé qui a été un homme qui a traversé le siècle d'une façon absolument magnifique, côtoyant les artistes, les écrivains, la création contemporaine. Fondateur de la Galerie Mag, bien sûr. Alors au départ, Aimé Mag, c'est un orphelin. Il n'a pas d'histoire artistique dans sa famille ni quoi que ce soit. Et c'est peut-être son déracinement entre le nord de la France et le sud qui lui a fait avoir comme ça cette passion pour l'autre. Une grande générosité dans son propos, tout le temps.
Et son grand-père était quand même musicien,
oui.
Qui aimait l'art quand même.
Oui, le grand-père de mon grand-père a initié, quand mon grand-père était encore à Hasbrouck, puisqu'il est de cette région lilloise, il a initié mon grand-père quand même au goût du beau, de la création, en particulier de la musique. C'était un homme qui jouait du violon, il a appris à mon grand-père à jouer du violon, donc un sens artistique, mais pas de recherche artistique. Je crois qu'il n'était jamais allé dans un musée, ni quoi que ce soit. Mon grand-père même a découvert ça assez tardivement. Et papy est arrivé en fait plutôt à l'art à travers... plutôt la littérature, à travers les poètes surréalistes, à travers les écrivains qui ont accompagné tous les grands artistes. Est-ce que Picasso serait Picasso sans Reverdy? C'est une question qu'on peut se poser. Et pour mon grand-père, c'était évident que c'était, au départ, papy voulait être ouvrier imprimeur, justement plutôt pour espérer un jour être éditeur. Bon, il a fait mieux qu'être éditeur, mais mieux, c'est-à-dire qu'il a fait plus qu'être éditeur. Il a été et éditeur et galerie. Et créateur de la Fondation Mag, producteur de musique. Donc voilà. Mais au départ, vraiment, son rêve, c'était d'éditer des revues de poésie contemporaine.
Oui, parce qu'il à l'époque, il a acheté le Minotaure, enfin, il a acheté toutes les grandes revues de l'époque.
Oui. C'est assez. Je pense que Verve et Minotaure, qui étaient les deux grandes revues artistiques, littéraires de. Alors, papy est né en 1906, donc quand il se retrouve. Dans les Cévennes, rapatrié par la Croix-Rouge au moment de la Première Guerre mondiale, c'est à ce moment-là qu'effectivement il cherche tout de suite à découvrir la poésie contemporaine. Et quand il a à peine 16 ans, il s'abonne à ces grandes revues surréalistes. Donc là, on est début des années 20, et tout de suite il a cette envie littéraire, mais une littérature illustré quand même par des artistes. C'est ça qui va l'amener en fait aux artistes.
Et on peut dire que la femme d'Aimé Mag, Marguerite, a aussi joué un rôle très important aussi dans ces aventures communes. On parle toujours d'Aimé Mag, mais la dimension de Marguerite, et même vous expliquez dans le livre que même l'idée de la galerie Mag, ce serait elle qui aurait eu l'idée, enfin les
oui,
circonstances en fait.
Absolument, parce que mon grand-père c'était un homme de passion et même presque de folie. Et ma grand-mère était issue, elle, d'une famille de gros commerçants cannois. Et elle a servi, en fait, elle a permis, plus que servi, elle a permis à mon grand-père de réaliser ses rêves, c'est-à-dire de toutes ses utopies, de les rendre faisables et qu'une folie n'entraîne pas la perte de tout le reste. Quand papy se lance dans l'aventure, papy et mamie se lancent dans l'aventure de la Fondation Mag, ma grand-mère consolide déjà financièrement, parce que ça a été quand même un projet d'envergure, mais elle fait en sorte que l'édifice soit tout le temps solide et que l'échec, s'il y avait eu échec, que l'échec d'un projet n'entame pas les autres rêves de mon grand-père. Donc c'est là où ça a été vraiment une association merveilleuse. Très, très, comme souvent dans ces couples, très, très explosive, de très, très fortes personnalités. Elle, une femme du midi, truculente, avec beaucoup, beaucoup de fantaisie. Mon grand-père, quelqu'un de presque avec, peut-être avec moins de fantaisie que ma grand-mère, mais avec plus de rêves. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est un petit peu ça. Et surtout, mamie, ce qu'elle a eu de formidable, elle était un lien merveilleux de douceur et de gentillesse, quand il le fallait, avec les artistes. Redoutable avec les flagorneurs, redoutable avec... mais vraiment redoutable, parce qu'elle avait, elle avait vraiment ce qu'on appelle de l'esprit. Elle utilisait le français vraiment à très bon escient. Papy me racontait que, avant qu'il s'installe à Paris, ils étaient donc à Cannes, le premier grand homme qui a mis le pied à l'étrier à mon grand-père, c'est Pierre Bonnard. Alors, 40 ans d'écart entre papy et Pierre Bonnard. Et vraiment, Bonnard a été autant séduit par mon grand-père et par son talent, en particulier de technicien dans la lithographie, puisqu'à l'époque, il est ouvrier, que par ma grand-mère, par justement son esprit. Et papy me racontait que quand Bonnard descendait du Canet pour venir à Cannes chez eux, régulièrement, il se mettait dans la table de la cuisine, face à ma grand-mère, tous les deux, et il faisait vraiment des joutes verbales, c'est-à-dire des jeux de mots les uns sur les autres, très surréalistes. On n'imagine pas ça du tout de Bonnard, on ne le voit pas du tout comme quelqu'un d'assez drôle. Et en fait, je crois que c'était quelqu'un qui avait vraiment non seulement beaucoup d'humour, mais qui avait aussi un côté incisif dans l'esprit qui correspondait complètement à ma grand-mère. Et donc, mamie, elle a aussi beaucoup servi à ça, le côté aussi convivial. Là, je crois que toutes les grandes expositions... tous les grands projets se sont décidés autour d'une très bonne table et ma grand-mère recevait d'une façon exceptionnelle. Grande cuisinière, merveilleuse cuisinière. Donc c'est, voilà, ça a permis, peut-être dans une forme de rigidité de mon grand-père, était compensée vis-à-vis des artistes vraiment par une côté bah, finalement du midi de ma grand-mère, le côté très, très accueillant des gens de la Côte d'Azur.
Pour revenir à Pierre Bonnard, Aimé Maigre explique que c'est lui qui l'a vraiment initié à l'art moderne, en tout cas, c'est l'a vraiment, enfin, ce qu'il dit, oui. En tout cas, dans un documentaire, je crois.
Oui, et même plus que l'art moderne, il dit à l'art vivant. C'est un mot formidable que mon grand-père reprendra, ça a même été le nom de la revue d'art qu'il a lancée. Et c'est ça qui est formidable, c'est que papy dit que sans Bonnard, il serait sans doute resté comme les autres marchands. C'est-à-dire qu'il ne se serait pas intéressé, finalement, à la jeunesse, aux peintres émergents, aux artistes émergents, aux poètes émergents. Et c'est vraiment Bonnard qui l'a poussé dans l'art vivant. Et ça paraît étrange que ce soit ce grand maître qui soit finalement beaucoup plus moderne que le jeune Aimé Maigre. Moi, j'ai retrouvé ça un petit peu avec papy. J'ai compris assez tardivement ce que papy voulait dire dans cette interview. Parce que moi et mon grand-père, on a presque eu ce rapport-là. Papy était finalement beaucoup plus moderne que moi. Quand le Centre Pompidou se construisait... Alors, le Centre Pompidou, c'est intéressant parce qu'il est conçu sur la base de la Fondation Mag. Papy, quoi, mes grands-parents et les Pompidou étaient très amis. Normal, Pompidou était le couple, Pompidou était de grands amateurs d'art. Et la Fondation Mag, le projet date... de 1954, elle ouvre en 1964, le Centre Pompidou ouvre en 77, donc 13 ans après la Fondation Mag. Et c'est exactement le modèle de la Fondation Mag porté à un niveau national, c'est-à-dire un bâtiment conçu pour l'art contemporain avec les artistes, avec une collection, des expositions permanentes, des expositions temporaires, une bibliothèque, des ateliers d'artistes, et la musique et la danse intégrées avec l'IRCAM. Donc c'est vraiment le projet Pompidou, c'est la Fondation Mag dans un projet national. Et c'est là où effectivement j'ai remarqué et j'ai même subi la modernité de mon grand-père, parce que moi j'étais horrifiée qu'on démolisse ce quartier de Paris, un bout du Marais. Et papy, lui, était... très enthousiaste et même enthousiaste si le bâtiment avait pu être... Or, il a été très contesté. Si le bâtiment avait pu être encore plus moderne, mon grand-père aurait adhéré. Et quand je lui disais, mais te rends compte, on démolit des maisons, etc., il me répondait, mais retourne à Lutèce, va vivre dans une hutte en paille, etc. Lui, il était vraiment pour tout le temps avancé, quitte à ce que l'on on efface une partie du passé. Papier n'était pas nostalgique, il était très respectueux, bien sûr, de l'histoire, mais il avait presque cette gourmandise, cette envie de modernité permanente. Et c'est là où c'était vraiment drôle, parce qu'en 77, moi j'ai 18 ans, papy était plus moderne que moi alors que j'avais 18 ans. C'est pas mal.
Et c'est grâce aussi à Pierre Bonnard, je crois, que Aimé Meg a rencontré Matisse aussi.
Oui, absolument. C'est puisque papy et mamie sont installés à Cannes. Mamie est originaire de Cannes et mon grand-père lui avait trouvé une place comme ouvrier lithographe là-bas. C'est comme ça qu'il rencontre ma grand-mère. Et très vite, il crée une petite communauté artistique autour de lui, mais plutôt orientée vers l'édition quand même. Et en revanche, il ouvre avec un peintre collectionneur de surcroît. Il ouvre une galerie également à Nice. Et ce peintre, il n'est pas connu en tant que tel, il est connu pour d'autres faits mondialement reconnus et en France qui nous tiennent à cœur, puisque c'était Jean Moulin. Jean Moulin était un très bon peintre, il y a eu quelques expositions de lui. On sait qu'il a, en particulier, c'était un très bon caricaturiste, il a fait des dessins, y compris de ses bourreaux, jusqu'au dernier moment. Et donc, papy et lui ouvrent une galerie à Nice. Et quand Jean Moulin est arrêté, c'est Pierre Bonnard qui vient dire à mon grand-père « Il faut que vous fuyiez tout de suite, parce que non seulement vous avez cette proximité avec Jean Moulin, mais en plus, votre imprimerie à Cannes, tout le monde sait que vous vous servez de vos presses pour autre chose que d'imprimer des jolies images, et en particulier pour aider la résistance. » Et c'est Pierre Bonnard qui, pour que mes grands-parents quittent Cannes, demande à son meilleur ami de leur trouver une maison dans l'arrière-pays. Son meilleur ami, c'est Henri Matisse, et c'est comme ça qu'il se retrouve à Vence, voisin de la maison de Matisse, et que ma grand-mère, à ce moment-là, se met à poser pour Matisse. Matisse demande à ma grand-mère, il la rencontre en fait chez un médecin à Vence, et il demande tout de suite à ma grand-mère de venir poser pour lui, parce qu'elle avait beaucoup de fantaisie. Elle avait un regard assez... paraît-il assez pour les peintres, vraiment perçant, très très difficile à capter, donc c'est ce qui intéresse les artistes également. Et puis elle était, Matisse le disait, elle n'arrêtait pas de parler pendant qu'elle posait. Mamie disait c'était pour pas m'endormir, parce qu'elle pouvait pas rester une heure, deux heures sans bouger, mais avec une sorte de... Mamie, on aurait pu, alors aujourd'hui c'est très démodé, mais elle aurait pu être une femme un peu comme une Aurane de Mazy, un peu dans la trilogie de Pagnol, celle qui joue Fanny. Voilà, ce genre de petit bout de bonne femme, très énergique comme ça. Et donc ça a été tout de suite une grande amitié avec Matisse. Matisse a fait 21 portraits de ma grand-mère, quoi. Il reste 21 portraits de ma grand-mère, puisque Matisse détruisait beaucoup au fur et à mesure ses dessins. Et puis voilà, donc papy a comme premier pilier, et pas des moindres, Pierre Bonnard. Le second, ce sera Henri Matisse. Et puis, quand il y a l'ouverture de la galerie à Paris tout de suite, après-guerre, en 1945, décembre 1945, donc vraiment au sortir de la guerre, ces deux géants, ces deux maîtres, amènent un troisième, et pas des moindres non plus, puisque c'est Georges Braque. Et c'est vraiment ces trois piliers sur lesquels papy va bâtir sa vie, mais pas pour faire commerce de leurs œuvres qui sont déjà mondialement connues, reconnues et recherchées, pour lesquelles il y a déjà un marché, mais pour demander à ces trois maîtres de soutenir la galerie pour exposer des jeunes artistes. Et c'est ça qui est formidable, c'est que les grands ont été séduits par mon grand-père parce qu'il voulait défendre les jeunes et parce qu'il a défendu les jeunes.
Justement, je crois que c'est par rapport à Braque qu'il y avait la Théogonie, je crois, il y avait un livre, voilà, et c'était Ambroise Vollard qui avait commencé, oui. Je crois, et c'est votre grand-père donc qui a continué l'aventure, donc il a continué aussi une œuvre, d'Ambroise Vollard, qui était un grand marchand d'art et aussi un grand éditeur.
Pour papy, son modèle, c'était Ambroise Vollard. Si on avait demandé à mon grand-père à 19 ans qui il rêvait d'être, c'était évidemment Ambroise Vollard. Le grand éditeur Ambroise Vollard qui a commandé à Toulouse-Lautrec, qui a commandé à Bonnard, qui bien sûr a commandé à Braque, dont cette théogonie, c'est-à-dire la théogonie d'Hésiode illustrée par Braque. Du temps de Vollard, il y a eu des premiers essais, quelques planches éditées, Vollard est décédé et l'édition s'est arrêtée. Et mon grand-père plus de 30 ans plus tard, a repris cette édition. Georges Braque était toujours vivant, donc ça fait un peu moins de 30 ans, 25 ans plus tard, a repris cette édition, a complété le livre, Braque l'a achevé, et il a enfin édité La Théogonie d'Hésiode, qui pour Papy était... voilà, ça, c'était sans doute quelque chose qui... Là, il touchait enfin son rêve. Pas d'être Ambroise Vollard à la place de lui, mais d'être dans la lignée d'eux, c'était absolument ce que mon grand-père rêvait de faire, plus que n'importe quoi.
Il est devenu un grand marchand d'art, mais surtout un grand éditeur aussi.
Oui, immense. C'est resté sa passion toute sa vie. Et un collectionneur de bibliophilie hors norme. Hors norme. Et puis, voilà, des grandes amitiés aussi avec des éditeurs comme Thériade, le grand éditeur grec, qui a fait le livre le plus connu c'est que Thériade a édité, c'est le fameux Jazz de Matisse, qui est quand même un chef-d'œuvre, mais c'est aussi des livres de Chagall illustrés avec 30-40 lithographies originales en couleur. C'était le temps de ces grands éditeurs qui faisaient des livres tirés à 100 exemplaires, 150 exemplaires maximum, qui nécessitaient parfois 7, 8, 10 ans de travail de réalisation. Le livre que mon grand-père a édité à Denide entre Jacques Prévert et Joan Miró, 10 ans pour faire ce livre, seulement 200 exemplaires, mais 10 ans de processus de création, de réalisation, de voilà. Donc ça, c'est évidemment pour Papy, c'était le plus beau des métiers. Sur ses passeports, sur ses papiers d'identité, mon grand-père a toujours fait marquer éditeur. Pas du tout collectionneur ou marchand ou galeriste ou quoi que ce soit, ou mécène ou je sais pas quoi, éditeur. Il a voulu toute sa vie être éditeur.
Il a publié aussi de très belles revues, évidemment. Enfin, L'Art Vivant, on en a parlé un tout petit peu, qui était la première revue multiculturelle, qui parlait avant l'Art Presse, qui parlait de toutes sortes d'art. Et évidemment aussi Derrière le Miroir. Donc, on peut en parler, parce que c'est...
Oui, alors ouais. Derrière le Miroir, dès que Papy et Mamie ouvrent leur galerie à Paris en décembre 1945, alors il faut se resituer dans l'époque, la communauté artistique et on va dire intellectuelle est totalement éparpillée, évaporée à Paris. D'abord parce que les grands marchands et les grands collectionneurs étaient principalement juifs, soit ont fui la France, soit ont été déportés. Donc vraiment la communauté artistique est orpheline d'un point de ralliement. Et Papy, qui lui veut être éditeur, déjà quand il s'est réfugié à Avance, a fait une petite maison d'édition qui s'appelle Pierre à Feu. On voit bien le côté historique qui donne l'étincelle de la vie. Et dès la première exposition, qui s'appelle Le Noir est une couleur, quoi. La toute première exposition, c'est Matisse, puisque c'est Matisse qui fait l'exposition inaugurale. Puis vient la première exposition qui s'appelle Le Noir est une couleur. Et Papy, à cette occasion, édite un genre de grand feuillet qui fait à peu près 40 cm de haut en lithographie originale. Et là, c'est là où on voit que c'est intéressant. Dans cette exposition, il y a, participe à cette exposition Matisse, Bonnard, Georges Rouault, Braque, bien sûr. Et bien, le Derrière le Miroir qui accompagne l'exposition est illustré de lithographie d'un jeune inconnu qui est le frère de Bram Van Velde, qui s'appelle Ger Van Velde. Et voilà, le soutien des grands artistes permet de faire l'ouvrage qui accompagne est confié à un jeune artiste. Et alors, Derrière le Miroir accompagnera les expositions de la Galerie Mag jusqu'à la mort de mon grand-père en 81. Il y aura donc 253 numéros de Derrière le Miroir, tous donc grand format, toujours le même format. Au départ, c'est juste quelques feuilles pliées. Après, ça prend de l'ampleur. Mais à chaque fois, sauf un ou deux numéros de la fin, où mon grand-père est déjà très malade, à chaque fois, tout en lithographie originale. Donc, les textes sont originaux, créés spécifiquement pour Derrière le Miroir, et les illustrations sont en lithographie originale. Et les collaborateurs, ou en tout cas les auteurs qui ont participé à Derrière le Miroir, c'est juste magnifique. Que ce soit Aragon, Prévert, Reverdy, René Char, Léris, quoi, c'est Jean Genet, quoi, c'est la liste est vraiment plus qu'impressionnante, elle est bouleversante. Il y a eu aussi des revues de poésie. Alors là, beaucoup plus confidentiel, comme Argile ou l'éphémère, qui là n'ont quasiment pas d'illustration, ou en tout cas pas d'illustration en couleur, parfois quelques illustrations juste en noir et blanc. Et c'est vraiment des très jolis recueils de poésie très contemporaine. Formidable.
Pour revenir sur la naissance de la Fondation Saint-Paul, qui est quand même née d'une douleur, que vous racontez dans le livre, en fait, la mort d'un de ses fils.
Oui, Papy a cette force qui est la résilience, qu'il a su me transmettre, au-delà même de tout. De chaque drame, mon grand-père en fait une lumière. C'est un orphelin, il est déraciné du Nord, il dit c'est formidable, j'ai été confronté à une seconde culture, il sort d'un pays très catho à côté de Lille, il se retrouve dans un pays protestant dans les Cévennes, il dit bien c'est une chance pour moi, c'est une force. Même si la galerie a démarré très difficilement, il y a eu quand même les échecs qui se sont succédés, mais des échecs financiers. Par contre, c'est devenu vraiment le point de ralliement aussi de toute la jeunesse artistique parisienne et bien au-delà. On pourrait dire que tout marchait très bien jusqu'à novembre 1953, où le second fils de mes grands-parents, donc mon oncle, meurt à l'âge de 12 ans. Et c'était un petit garçon, au dire de tout le monde et des interviews que j'ai retrouvées, assez exceptionnel. Il avait un goût artistique très, très développé. 12 ans d'écart avec mon père. Mon père a 24 ans quand son petit frère meurt. Deux caractères très, très différents. Et c'est vraiment un drame pour la famille, mais la famille au sens élargi, c'est-à-dire avec les artistes. Les artistes font partie de la famille. Et étonnamment, beaucoup d'artistes n'ont pas d'enfants. Transmettre la vie, ça ne les intéresse pas tellement. Ou alors, où ils ont beaucoup d'enfants, ils ne s'en occupent pas. On a quand même pas mal à citer. Ou ils n'en ont pas. Et c'est assez intéressant de voir que Giacometti, Derain, Kandinsky, Léger, Braque, Bonnard, bien sûr, n'ont pas d'enfants, n'ont pas eu d'enfants. Et quand le petit Bernard meurt... Alors on peut imaginer la douleur quand on voit l'acte de Giacometti à la mort de cet enfant. Giacometti, pour pouvoir sortir sa douleur, va faire le caveau familial à Saint-Paul-de-Vence pour que cet enfant soit enterré. Donc on voit bien que c'est pas un geste d'un artiste qui travaille avec une galerie ou seulement d'un ami. C'est vraiment une chose comme ça, presque à vomir, à sortir de soi, pour non pas refuser cette mort, mais finalement, presque, oui, il fait des choses en bronze, très lourdes, quoi, ça, voilà, la mort est inscrite. Et à ce moment-là, Fernand Léger, pas d'enfant non plus, Fernand Léger et Georges Braque viennent voir mon grand-père et lui disent avec beaucoup de dureté, Bernard est mort, c'est votre échec. Bernard est mort d'une leucémie après des années de lutte. C'est votre échec, nous on ne touche pas à la vie, on ne prend pas ce risque-là. Vous avez pris ce risque, vous avez échoué, et bien maintenant vous devez faire comme nous quelque chose d'immortel. Et c'est dans cet esprit que mon grand-père et ma grand-mère se sont engouffrés dans un projet, aussi parce qu'il fallait quelque chose pour les sortir c'est plus qu'un deuil, de cette horreur. Et du coup, Miro a proposé à mes grands-parents de partir aux États-Unis. Léger était parti vivre aux États-Unis pendant la guerre, Chagall également, bien sûr Marcel Duchamp, et ils ont dit, allez aux États-Unis, on va aller voir ce qui se passe, c'est ce que Léger disait, venez voir ce qui se passe aux États-Unis avec les nouvelles grandes collections d'art contemporain, et surtout Miro avait une envie, c'était d'aller voir son ami d'enfance, il y avait trois copains inséparables catalans, c'est Joan Miro, Pepito Artigas, qui est un grand céramiste, il y a tellement important qu'il existe en céramique un bleu Artigas, c'est vraiment un céramiste qui compte. Et le troisième, c'est un architecte, José Luis Sert, qui est parti vivre aux États-Unis et qui a la chaire d'architecture à l'Université de Boston. Et donc, ils partent avec Miro voir Sert et disent, voilà, on voudrait faire la maison idéale pour les artistes. Sert s'engouffre dans ce projet, avec les artistes, évidemment, qui disent, Eh bien, dans ces cas-là, il faut faire les salles comme ça, il faut faire les murs comme ça. Le plus grand problème va être le problème de la lumière. Il faut traiter la lumière avant tout. Et voilà comment naît d'un drame une chose merveilleuse et effectivement immortelle, la Fondation MAG. C'est pour ça que mes grands-parents ont voulu que ce soit une fondation et non pas ni une société ni quoi que ce soit, mais une fondation, donc illimitée dans le temps. Et c'est pour ça qu'à la Fondation MAG, vous avez une chapelle dédiée à Saint-Bernard, à l'entrée de la Fondation. C'est vraiment sur la mort de cet enfant que la vie artistique s'est faite.
Mais elle était dédiée avant.
Alors oui, l'histoire est assez bouleversante, puisque puisque Bernard est mort à Saint-Paul, dans la propriété que mes grands-parents avaient achetée en face de Saint-Paul, sur la colline en face de Saint-Paul, quand l'idée de faire une maison pour les artistes germe et naît dans la tête de mon grand-père, conseillé par les artistes, papy fait débroussailler le bas de la propriété et ils sont retrouvés des vestiges d'une ancienne chapelle. Et il s'avère que cette chapelle était dédiée à Saint-Bernard. Donc évidemment, mes grands-parents y ont vu un signe manifeste, un signe où on est là au-delà du naturel. Et c'est pour ça qu'à la Fondation, quand vous rentrez dans cette chapelle, vous avez les bas-reliefs anciens, c'est la seule chose ancienne qui existe dans la Fondation. Et l'arrondi de ce bas-relief, c'est sur cet arrondi-là que Certes va faire l'arrondi des toits de la Fondation. Il est parti de l'histoire, du passé, et quand même d'un côté très important, c'est-à-dire le sacré. Le sacré à la Fondation est très important. C'était une époque où la religion était très malmenée et c'était plus facile d'être anticlérical avec justement des gens comme Prévert, etc., qui étaient aussi très proches de mes grands-parents. Et justement, ils ont ramené une spiritualité, dans cette Fondation, dans ces bâtiments, et c'est peut-être ça qui se passe là-bas. Dans le discours de Malraux inaugural, Malraux le dit, il dit il s'est passé peut-être ici quelque chose de l'esprit. On dépasse la notion même de bâtiment et de lieu pour recevoir l'art. On est dans quelque chose de l'esprit, effectivement.
Vous dites en même temps, la Fondation MAG, c'est pas non plus l'œuvre de sa vie. Il pensait toujours à l'avenir. On a l'impression qu'il s'arrêtait pas, en fait, qu'il s'est pas arrêté à ce projet-là. Il a créé d'autres galeries, que je savais pas, à Zurich, à Barcelone, à New York. Il s'était pas arrêté sur Saint-Paul-de-Vence.
Ça va peut-être vous choquer, mais la Fondation n'est pas une finalité pour lui. La Fondation, c'est un outil. Et ça, il me l'a dit, redit et expliqué. Quelle était la volonté de mon grand-père ? Mon grand-père, il voulait être... Je lui ai demandé un jour. Un jour, c'est en 73, à l'occasion de l'exposition du musée imaginaire d'André Malraux à la Fondation MAG, seule fois où le musée imaginaire s'est matérialisé. Et je me retrouve devant un grand tableau du douanier Rousseau. Alors, j'ai 14 ans à l'époque. Et je ne comprends pas ce que ça fait là. Je reste séduite, mais interloquée devant cette œuvre. Et je demande à mon grand-père, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est là ? Et c'est quoi ton rôle ? Et papy, qui était incroyablement bienveillant, pas seulement avec moi, mais avec la jeunesse, il voulait transmettre, donc il prenait le temps d'expliquer tout le temps aux jeunes. Il m'a dit, ça c'est mon rôle. Ça c'est mon rôle parce que c'est un grand artiste. Il est classé, on ne sait pas pourquoi, dans les naïfs, alors que c'est tout sauf un naïf. C'est un très grand artiste de l'histoire de l'art. Et mon rôle, c'est de le faire passer dans le grand public. Il est reconnu par un tout petit cercle, il faut voir ça en 73 bien sûr, hein. Il est reconnu par un tout petit cercle d'amateurs. Et moi, je dois le porter au grand public. Donc voilà mon rôle. Je suis entre l'artiste et le public. Il y a une très belle phrase de Georges Braque qui dit « Est-ce que l'artiste a 20 ans d'avance ou le public 20 ans de retard ?» Et moi, je me suis toujours demandé, justement, nous, où on se situait. Moi, je n'ai pas le droit de dire que j'ai 20 ans de retard par rapport aux artistes. Ce n'est pas vrai. Je vis avec des artistes tous les jours. Ma vie... Ne peut pas s'envisager sans être au plus près de la création contemporaine. Mais je n'ai pas le droit de dire non plus que je suis artiste, je ne suis pas créateur. Et je me rends compte que c'est là où c'est formidable, parce que c'est sans fin. J'ai la chance d'avoir accès à la création contemporaine. Et ce que je vois, ma seule envie, c'est de me retourner et de dire au public, venez voir, venez vite voir. Le temps que je me retourne et que je me retourne, les artistes ont à nouveau avancé. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que c'est sans arrêt cette progression. Et mon grand-père, c'était ça. Donc il voulait tout le temps vraiment ramener, pas réduire le temps entre le grand public et les artistes, mais en tout cas donner accès. Et c'est là où la Fondation MAG, pour lui, n'est pas une finalité, parce que c'est juste un outil. Mais au même titre que quand il fait l'art vivant, c'est un outil, que quand il fait une carte postale, c'est un outil, que quand il édite une affiche ou un livre ou un grand livre, ce sont des outils pour lui. Bien sûr, la Fondation reste son outil le plus visible, le immortel justement, mais son but, c'est pas de faire un lieu, encore moins un mausolée, c'est juste de transmettre sa passion pour l'art contemporain, donc renouvelé tous les jours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que papy aurait fait aujourd'hui, et non pas qu'est-ce qu'il a fait. J'essaie pas du tout de me substituer à lui, surtout pas. J'essaie de prendre renseignement. Je suis très curieuse avec tous les nouveaux médias, etc. Je vois des pistes où certainement mon grand-père sera allé dedans. Je suis à peu près sûre que mon grand-père aurait fait une chaîne de télé artistique. J'en suis sûre. Il n'aurait pas pu résister à ça. Ça aurait été trop un outil formidable. Donc voilà, la Fondation, c'est peut-être choquant quand je dis que ça n'est pas son œuvre définitive, ça n'est pas son grand œuvre, c'est l'outil de son projet. Son projet, c'est amener les artistes au grand public.
Oui, c'est un grand passeur.
Oui.
Et on a l'impression que, on discutait tout à l'heure, que finalement, il s'est toujours effacé devant les artistes. Et son but, c'était vraiment d'offrir aux artistes la possibilité de s'exprimer le plus possible. Il y a un vrai amour de l'art qui est incommensurable.
Oui, c'est un curieux personnage, mon grand-père, parce que c'est en même temps quelqu'un de très visible. D'abord, il est d'une grande élégance. Il a un look, il a un style, c'est inouï. Quand vous voyez les interviews de mon grand-père des années 70, vous voyez les plateaux de télé où tout le monde est incroyablement démodé. Aujourd'hui, les costumes des hommes sont démodés, même le phrasé est un peu démodé, etc. Le seul qui ne soit pas démodé, c'est mon grand-père. Alors bien sûr qu'il se faisait faire des costumes assez étonnants, qui sans doute étonnaient les gens, mais quand même toujours. Alors tiré à quatre épingles, ma grand-mère se moquait suffisamment de lui pour ça. Mais c'est un drôle de mélange entre un homme extraordinairement élégant, visible. D'abord visible parce qu'il c'était une stature, c'était un homme très grand, très 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 bel homme, avec des yeux bleus comme ce tissu. Donc il était... Il émanait de lui quelque chose, il ne pouvait pas passer inaperçu dans une foule, ce n'était pas possible, par le magnétisme qu'il avait. Et en même temps, il ne le faisait pas pour être lui dans la lumière, mais il le faisait aussi parce que lui était un outil pour ses artistes. Lui, et c'est ça que les artistes aussi aimaient, c'était qu'il y avait cette élégance merveilleuse chez mon grand-père qui servait aussi, c'était une sorte de dignité par rapport à l'art qu'il défendait, aux artistes qu'il défendait. Donc s'il devait utiliser, y compris sa personne, oui, il était au service des artistes. Je crois que mon grand-père a aimé plus les artistes même que l'art. C'était sa passion, c'était les artistes, bien sûr. Donc, mais voilà, ça peut être curieusement perçu parce que on le voit très, très sûr de sa personne, quelqu'un qui ne donnait jamais l'impression de douter, parce qu'il n'y avait pas droit. Il n'avait pas le droit d'être autrement. Il devait être affirmatif tout le temps pour défendre ses artistes.
À un moment, vous parlez d'esprit mag. Pardon. Qu'est-ce que c'est l'esprit mag?
Ah ben, ça fait bientôt 60 ans que je cherche. L'esprit mag, c'est d'abord une exigence incroyable. Et puis, je peux dire ce qui n'est pas l'esprit mag. Je peux finalement faire les contours de ce qui n'est pas l'esprit mag. L'esprit mag, c'est quand même une honnêteté incroyable, une honnêteté morale. C'est-à-dire, on ne doit jamais se commettre, ni pour la médiatisation, ni pour l'argent, ni pour le paraître. C'est on doit faire ce que l'on a à faire. Pas pour pas justement pour en recevoir les lauriers de la gloire ou quoi que ce soit. Moi, une des raisons aussi pour lesquelles je me suis séparée de ma famille et de toute la famille Mag, on est deux sœurs, on a fait vraiment scission avec une de mes sœurs. Enfin, on a fait scission dès le départ. Dès le départ, on était incompréhensibles dans cette famille. C'est que justement, je peux pas... Je dis pas que je détiens l'esprit Mag. J'aurais pas cette prétention-là. Mais en tout cas, je peux pas accepter les erreurs. Je peux pas accepter... Alors, ça va peut-être en choquer certains ici. Je peux pas accepter qu'on confie à Bernard-Henri Lévy une exposition à la Fondation Mag. Ça n'est pas possible. Je viens de vous parler d'André Malraux, de Jacques Prévert, de Reverdy, de René Char. J'en suis bouleversée en le disant, parce que pour moi, c'est vraiment... Alors là, pour moi, c'est la trahison de la mémoire de mes grands-parents. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Donc c'est bien une incompréhension de ce qu'est l'esprit mag. Alors j'en ai pas la définition, mais je sais moi, je ne me serais jamais accordé cette erreur, quel qu'en ait été le bénéfice. Alors, est-ce qu'il cherchait une surmédiatisation, j'en sais rien, mais ça, c'était pas possible à faire. Ça, je peux pas. Je suis assez contente de m'en être écartée, ne serait-ce que pour ça. Quand même mieux.
Justement, votre livre parle évidemment de votre éviction de cette famille, en fait. Mais on dit, enfin, et vous racontez au tout début du livre, en fait, l'histoire, cette fiction autour de votre naissance, on a l'impression qu'elle était déjà programmée, cette éviction.
Ben oui, sans doute. Sans doute. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, quand je vous parlais du pouvoir de résilience, ou de la capacité de résilience, j'en parlais aujourd'hui, j'ai déjeuné divinement dans votre ville, sur une terrasse de café, et j'ai parlé avec un de mes amis de ma capacité de résilience, et il disait, c'est quand même quelque chose de flagrant chez toi. Je lui dis, oui, mais c'est venu quel jour? Est-ce que c'est venu quand, dans mon enfance, on m'a dit, on t'a trouvé sur les marches d'une église? Est-ce que c'est le jour où on m'a dit, finalement, on t'a pas trouvé sur les marches d'une église? Est-ce que c'est le jour où on m'a dit, où on m'a un peu abandonné chez ma grand-mère avec ma sœur Flo? Est-ce que c'est le jour où on est venu me rechercher? Moi, quand j'étais petite, je disais, j'ai quand même beaucoup de chance d'être adoptée par cette famille, parce que j'ai les mêmes robes que mes sœurs, je dors dans un lit aussi confortable qu'elles, etc. Peut-être c'était programmé. En tout cas, il est certain que dès le départ, on était deux, Flo et moi, à être traités différemment. Alors, on nous appelait les gauchères. OK, c'est très mignon d'appeler ses filles les gauchères, mais c'est un côté, on nous exclut quand même. On n'est pas comme les autres. Alors ça plaisait beaucoup à mon grand-père. Mon grand-père était super fier d'avoir deux petites filles gauchères. Il était super fier d'avoir deux petites filles qui, un jour de vernissage, au lieu d'être avec leur jolie robe, tombent dans une mare de vases, etc. C'est tout ce qui amusait mon grand-père. C'est tout ce qu'il aimait, cette liberté. Moi, il m'a appris la liberté à outrance, avec ma grand-mère qui essayait de donner une forme un peu conventionnelle à tout ça. Mais les plus grands bonheurs que je faisais à mon grand-père, c'est quand je sortais de la norme, c'est quand je dépassais les obligations, quand il aurait aimé qu'on soit encore plus exubérante. C'est logique quand même, il n'allait pas vouloir des petites bourgeoises.
Des petites filles vivantes.
Vivantes, absolument vivantes.
Mais comment vous expliquez la cruauté, enfin, l'indifférence de vos parents et des moments de cruauté?
L'indifférence, elle est, moi, je la trouve assez logique et assez normale pour l'époque. D'abord, c'est dans ce milieu artistique, ça a un côté, non pas surréaliste, mais un peu dadaïste. Hein, on est vraiment. Ils sont la continuité, leurs meilleurs amis, c'est quand même Juliette Gréco, c'est Jacques Prévert, etc. Donc, c'est assez logique le détachement des enfants, et c'est presque une forme de liberté aussi qu'ils nous donnaient. Alors, c'est assez drôle justement de voir comment, avec la même éducation, mais calquée, en particulier ma sœur Florence et moi, puisqu'on on a grandi soudés ensemble. En permanence dans la même chambre, dans les mêmes endroits, dans les mêmes classes. Voilà, moi, on m'a fait rentrer un an plus tôt à l'école pour que je sois dans la même classe que ma sœur Flo, etc. Donc, on a grandi comme des jumelles. Ça, c'est assez drôle de voir qu'on le vit très différemment. Moi, je le prends comme une liberté. Elle le prend comme un abandon. Moi, je le prends comme un amusement. Elle le prend comme une cruauté. Bon, et pourtant, c'est la même chose. C'est la même... Bon, elle a peut-être pas été trouvé sur les marges d'une église, ça peut changer quand même. Mais non, l'indifférence, je la trouve pas. En tout cas, moi j'ai zéro reproche à faire, surtout. Mais je ne la trouve pas cruelle du tout. Je ne trouve pas ça du tout anormal. Il faut voir aussi comment vivaient. Nous, c'était assez marrant la façon dont on vivait. On n'était quasiment pas scolarisés. On vivait entre Paris et Saint-Paul. N'importe quand, il n'y avait pas de saison scolaire ou quoi que ce soit, on n'avait pas plus un professeur à la maison. Hein, enfin, on savait lire et écrire très très tôt, parce qu'on grandissait avec des adultes. On le voit bien sur la couverture de mon livre. J'ai 4 ans et je suis à une inauguration d'une exposition de collage de Jacques Prévert au musée qui maintenant s'appelle le musée Picasso, qui à l'époque s'appelait le musée Grimaldi. À Antibes, il n'y a pas un seul autre enfant, mes sœurs ne sont pas là, et pourtant je suis la plus jeune, parce que moi je voulais être là où ça bouge, là où ça parle, là où ça gigote, là où ça parle russe, où ça parle italien, où ça parle toutes les langues possibles et imaginables. Voilà, c'est Prévert qui m'a donné mon prénom, c'est tout ça, voilà, j'aimais cette... Je n'avais pas conscience que c'était différent, que c'était de la fantaisie, mais j'avais conscience en tout cas que c'était bouillonnant. Alors, les autres enfants, est-ce que le fils de Chagall, David MacLean, avec lequel je suis toujours intimement amie, est-ce qu'il était élevé différemment? Non, il a été baladé entre les États-Unis, la Hollande, Saint-Paul, Paris, de la même façon que nous. La fille de César, c'est pareil. Catherine Allégret, elle a écrit un bouquin, elle l'explique très clairement. Toute cette bande d'enfants, parce qu'en plus ça se passe à Saint-Paul-de-Vence, donc à la Colombe d'Or. La Colombe d'Or, c'est mon parrain. C'est voilà, tous ces gosses sont élevés en vrac. On ne sait pas trop qui les élève, mais on s'en fiche. C'est vraiment la guerre des boutons, sauf que l'un s'appelle Montand, l'autre s'appelle Chagall, l'autre s'appelle Miro, l'autre s'appelle Mag, l'autre s'appelle voilà. Mais c'était cette. Mais il y a aussi le fils du boucher, le fils du facteur, le fils du gendarme, le fils, etc., etc. Donc c'est cette bande de gosses qui vit dans une liberté absolument incroyable. Nos parents, c'est quand même les premiers qui ont dit « il est interdit d'interdire ». Donc, on vit au milieu de ça. Alors, c'est la femme de Clouzot qui s'inquiète de savoir si cette bande de gamins a mangé. Et si à 4 heures de l'après-midi, elle demande à l'un ou à l'autre « qu'est-ce que vous avez mangé à midi ?», qu'elle se rende compte qu'il y a 8-10 gosses qui n'ont pas mangé, hop, on va dans les cuisines de la Colombe d'Or et on picore les trucs dans les frigos. D'abord, on est nombreux à habiter à la Colombe. Maman habite à la Colombe d'Or, elle ne veut pas habiter dans la propriété de mon grand-père, donc maman habite à l'année à la Colombe d'Or. C'est mon parrain, les enfants de mon parrain ont exactement le même âge que les enfants Mag. Voilà, c'est le fils de Pierre Lazareff, c'est le fils de François, quoi, c'est François Ferral, c'est des gens quand même issus d'un milieu quand même hors norme. Et tous ces gosses sont un peu élevés de la même façon. Alors nous, c'est peut-être l'extrême de l'extrême de l'extrême, mais je trouvais pas ça très choquant. J'étais beaucoup plus choquée quand j'étais à Paris et que j'allais chez des camarades de classe, parce que j'avais pas vraiment de copines de classe, parce qu'il y avait une différence trop énorme, et que je me retrouvais dans les appartements du 7e arrondissement avec les tentures en pierre verte avec les abeilles, les bustes de Napoléon Bonaparte. Voilà, ça pour moi, c'était horriblement choquant. Choquant, très décalé. Alors, j'osais surtout pas dire qu'il y avait un tableau de Picasso à la maison, parce que je serais presque passée pour, je sais pas, trop de... C'était encore scandaleux. Mais quand vous grandissez avec... sur vos murs, votre mur en face de votre lit, et qui change sans arrêt, parce que chez nous, tout ce qu'il y a sur les murs change sans arrêt. Soit d'abord parce que mon grand-père est marchand de tableaux, mais également parce que nous prêtons à des musées énormément. Donc tout tourne tout le temps. Quand vous grandissez et que vous avez sous les yeux un tableau de Chagall avec une chèvre bleue, un violoniste qui a la tête à l'envers, des amoureux qui volent au-dessus de Notre-Dame, Mickey, c'est un peu dérisoire à côté. C'est un peu quand vous voyez les sculptures de Miro avec qui sont des hommages incroyables à la féminité, etc., et même presque très pornographique, l'œuvre de Miro. Tout est un peu. Ma sœur Flo avait eu une phrase très très bien. On était allé voir le magicien d'Oz, et quand elle était sortie, elle m'avait dit c'est bof, t'as vu cette espèce de lion habillé en moquette et l'autre en boîte de conserve où on voit que c'est du plastique. Quoi. Ça ne nous faisait pas du tout rêver. Un tableau de Chagall fait beaucoup plus rêver un enfant, quand même. Un violoniste bleu, un âne rouge, c'est quand même... Et nous, c'était notre réalité. Nous, on voyait ça... Quoi. Oui, c'était notre réalité, bien sûr. Donc, non, moi, je souffrais pas du tout de cette éducation décousue. Et c'est pour ça que vous savez, vous ne trouvez pas que c'est un abandon de parents, parce que quand vous avez la liberté d'être à vélo et pieds nus sur les collines de Saint-Paul-de-Vence, et que tous les jours, vous passez faire une bise à Chagall, parce que Chagall a construit sa maison à côté de celle de mon grand-père, et que le petit chemin des chapelles entre la Colombe d'Or et la maison de mon grand-père et la Fondation Mag passe par la maison de Jacques Prévert, et que Prévert, tous les jours, avec son côté truculent, nous on l'appelait l'ogre, hein, parce qu'il s'amusait à nous faire peur. Bon, on est drôlement content de ne pas aller à l'école. C'est quand même mieux. Je m'ennuie mortellement à l'école. Voilà.
C'est justement c'est Prévert qui vous a donné votre ce yo-yo. Et ça, pourquoi en fait on sait
Oui, parce que en fait sur effectivement ma naissance que je raconte. Alors la façon dont j'ai organisé ou désorganisé ce livre, j'en sais rien. C'est je suis partie. C'est la première fois où en fait je pars de ce que j'ai vu et je pars de ma naissance. C'est une curieuse biographie de mon grand-père qui part de ma naissance. Voilà, et après je reviens, c'est-à-dire je repars quand j'ai conscience de qu'il faut que j'écrive l'histoire de mon grand-père dès sa mort, dès le jour de son enterrement. Je repars à la recherche de mon grand-père. Mais à ma naissance, oui, bon, c'est un peu compliqué, effectivement, c'est en tout cas pas tout à fait logique. Prévert a voulu. Prévert était un grand anticlérical et a voulu absolument que cette troisième fille de mes parents ne porte pas le nom d'une sainte. Il disait arrêtez, sainte. Alors d'accord, on m'a appelée Françoise à ma naissance, mais il disait elle peut pas porter le nom d'une sainte, c'est pas possible. Et il disait, faut inventer des nouveaux prénoms, faut inventer quelque chose de nouveau pour ses enfants et arrêter de leur faire porter le poids de la religion. Et c'est pour ça qu'il m'appelle Yo-Yo. Je sais, alors pourquoi Yo-Yo, ça j'en sais rien. Ça j'avoue que j'en sais rien. Papa me disait que peut-être c'était parce que la nurse de ma sœur Florence était autrichienne et qu'elle disait ya, un genre de ya très yo. Alors que c'est peut-être venu de là, mais on ne sait pas vraiment. On m'a appelé comme ça, et puis voilà, et puis je suis devenue, j'ai changé d'état civil pour que le seul prénom qu'on m'ait toujours donné soit quand même celui qui était sur mes papiers.
Vous avez travaillé enfin, longtemps, évidemment, pour Mag. Vous avez rencontré, par exemple, Gajewski, vous avez beaucoup travaillé avec lui.
Ah oui, Gajewski.
Un grand peintre du XXe siècle qui a eu droit à une grande rétrospective, mais qui n'est pas considéré à sa juste place dans l'art du XXe siècle.
Gajewski, c'est en même temps la chance de ma vie et le drame de ma vie. C'est la chance de ma vie parce que quand on rencontre un être exceptionnel, on a beaucoup de chance. Et il était un être exceptionnel, d'une dureté, d'une exigence, d'une sévérité au-delà du supportable. Mais, nom d'un chien, qu'est-ce que ça vous... ça vous remue l'esprit, quand même. Hein. C'est, je pense que je ne... Ça paraît bizarre, mais je pense que je ne serais jamais allée dans le monde de l'art en tant qu'acteur du monde de l'art, c'est-à-dire en tant qu'éditeur ou travailler à la galerie, si je n'avais pas rencontré Gazurovski. Gazio, ça a été plus que mon mentor. C'était, il avait exactement l'âge de mon père, on a 30 ans d'écart. Et il était... J'ai cru à un moment qu'il était méchant. Il n'était pas méchant, il était exigeant. Et quand je suis allée voir mon père plusieurs fois et où je lui disais « Mais je t'en supplie, dis à Gazio, d'arrêter de me martyriser », mon père me répondait vraiment d'un revers comme ça, très simple. Ils étaient très très amis, Gazio et papa. Il me répondait « S'il ne t'aimait pas, il ne t'adresserait même pas la parole ». Donc, c'est bien, mais enfin, quand vous montez une exposition et que... il ne vous apporte pas les œuvres, qu'il ne vous apporte pas les tableaux, qu'il ne vous fait pas le catalogue, qu'il ne vous fait pas, etc. Et que vous avez 20 et quelques années, c'est incompréhensible. Il m'a poussée vraiment dans l'exigence. Papa m'a dit, tu as les mêmes rapports avec Gazio que j'ai eu avec Giacometti. C'est-à-dire, il est capable de te pousser dans tes retranchements jusqu'aux larmes, jusqu'à ce que tu te rends compte de ta connerie. Alors, bien sûr que c'est douloureux, mais c'est quand même assez formateur. Immense artiste, mort beaucoup trop tôt, il est mort, il avait 56 ans. Une œuvre très complexe, magnifique, une ode à la peinture hors norme, mais y compris hors châssis. Donc, des grandes installations, complexes à comprendre. Peu d'œuvres, parce qu'il a détruit beaucoup plus qu'il n'a conservé. Aujourd'hui, une référence pour les jeunes artistes, peu connue du grand public, mais une grande référence. Oui, on l'assimile parfois à des gens comme Joseph Beuys, sauf que Beuys a vraiment dématérialisé l'œuvre, alors que Gazurovski a maintenu une matérialité de l'œuvre dans une beauté de peinture, en plus incroyable. La matière est belle. Vraiment, que je pourrais pas vivre sans Gazio. C'est un très grand artiste, mais très complexe à défendre et qui nécessiterait beaucoup de travail.
Malheureusement, on doit s'arrêter.
Voilà.
Merci.